Merci, merci Sylvie. Merci à cette église pour votre invitation et je suis tellement heureuse d'avoir cette occasion d'être avec vous, de vivre ce culte avec vous. Je vous transmets les salutations de l'église de Valence. Ils sont en train de prier pour nous là. Ils m'ont dit, ils m'ont envoyé un petit texto, on est de tout cœur avec vous, on prie pour vous. Et merci spécialement aussi de la part des membres de la commission synodale. Nous étions réunis la semaine dernière, le week-end dernier. Merci pour votre soutien, pour ta prière Sylvie, qui reflète aussi tout ce que nous recevons de cette église de Cannes, un soutien pour le corps pastoral et pour votre pasteur en particulier. Je suis tellement contente d'être là avec Eric et Yvonne. Alors Eric et Yvonne, on s'est connus sur les bancs de la fac, hein, à Vaux-sur-Seine. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein. On était jeunes, on était beaux, on était libres. Voilà, je ne donnerai pas trop de détails après, hein. Voilà, je ne vous parlerai pas des matchs de foot et tout ça, ça reste privé. En Union, nous avons beaucoup parlé ces derniers temps et les 10 dernières années de développement, de revitalisation, d'implantation, n'est-ce pas? Et le dernier synode, le thème était beaucoup plus sur ce lien qui nous unit. Alors je viens ici ce matin avec une question que je me pose moi dans ma vie et puis voilà, je vous la livre aussi. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit personnellement dans nos vies de tous les jours, familialement, que ce soit en église, que ce soit aussi au niveau de l'union, est-ce que ce que nous vivons correspond avec ce que nous pensions vivre, avec ce que Dieu allait nous faire vivre? Vous allez me dire, oh là là, de bon matin, nous prend la tête là, avec des questions comme ça. Mais juste pouvoir réaliser des fois que qu'il peut y avoir un décalage entre ce que nous pensions vivre le jour où on s'est levé, où on a suivi le Seigneur par la foi, et ce que nous vivons vraiment. Alors, comment vivre ce décalage? Comment essayer de vivre cet équilibre-là? Alors, je vous invite pour cela à lire un texte qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 6. Nous lirons Nous lirons les versets 8 à 23. Alors, j'aime bien, les enfants viennent de partir et puis j'aime beaucoup raconter cette histoire aux enfants et aujourd'hui, on la lit ensemble. À l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, il consulta ses officiers puis leur dit où il voulait que son armée campe. Mais Élisée, le prophète, fit dire au roi d'Israël, « Évitez de passer à tel endroit, car l'armée syrienne s'y installe. » Le roi d'Israël envoya des soldats à l'endroit que lui avait indiqué le prophète et il se tint sur ses gardes. Cela arriva plusieurs fois. Élisée avertissait le roi d'Israël et celui-ci pouvait prendre ses précautions. Le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers et leur dit, « Il y a parmi vous un traître qui travaille pour le roi d'Israël, ne voulez-vous pas me le dénoncer ?» L'un des officiers lui répondit, « Mais il n'y a pas de traître parmi nous, mon roi. » Mais Élisée, le prophète qui se trouve en Israël, est capable de révéler à son roi les mots que tu dis même dans ta chambre à coucher. Alors le roi de Syrie ordonna, « Allez voir où il se trouve et j'enverrai le capturer. » Quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait à Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars, des chevaux qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure, il sortit de la ville, il vit une troupe, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître !» s'écria-t-il. « Comment allons-nous faire ?»« N'aie pas peur, » répondit Élisée. « Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, il pria en ces termes, « Seigneur, ouvre ses yeux, je te prie, pour qu'il puisse voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et celui-ci vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. Cependant, les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète. Élisée pria de nouveau, « Seigneur, frappe tous ces soldats d'aveuglement. » Et Dieu les frappa d'aveuglement comme Élisée l'avait demandé. Alors Élisée dit aux soldats, « Vous êtes sur le mauvais chemin. Ce n'est pas la ville qu'on vous a indiquée. Suivez-moi et je vous conduirai vers celui que vous recherchez. » En effet, Élisée les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils y entrèrent, Élisée pria encore, « Seigneur, demanda-t-il, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient maintenant. » Le Seigneur ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils se trouvaient en pleine ville de Samarie. Dès que le roi d'Israël vit tous ses soldats, il demanda à Élisée, « Mon père, faut-il les tuer ?»« Non, répondit Élisée, ne les tue pas. Habituellement, tu ne mets pas à mort ce que ton armée fait prisonnier au combat. Alors à ceux-ci, donne plutôt à manger et à boire, puis laisse-les retourner vers leur roi. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand festin. Après qu'ils eurent mangé et bu, il les renvoya et ils retournèrent vers leur maître. Depuis lors, les bandes de pillards syriens cessèrent de pénétrer dans le territoire d'Israël. Histoire rigolote, vous ne trouvez pas ? Que les enfants aiment entendre, surtout par la façon dont elle se termine. On imagine ces soldats rentrer chez eux et avoir la honte de leur vie, hein, comme on dit, pour raconter ce qui leur est arrivé. Et puis ça rappelle le psaume 23, hein, « Il dresse devant nos ennemis un festin ». Mais que nous apprend cet épisode, cette histoire sur la vie du peuple de Dieu ? Et qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire à nous, sur nos vies, ou plutôt sur l'action de Dieu dans nos vies ? Voilà, vous l'avez vu, hein, un déroulement d'une histoire en deux parties. Une première partie où, quand l'ennemi attaque, quand l'épreuve est là, la protection de Dieu est là. Son action, elle est bien visible. Dieu prévient Élisée, qui à son tour prévient le roi des tactiques du roi de Syrie. Et du coup, c'est bon. Dieu est avec son peuple, Dieu défend son peuple. Il ne permet pas que l'épreuve arrive. Il protège, il prévient du danger. Tout va bien. Dieu est là, Élisée est là. C'est tous les moments où on crie dans notre vie, « Merci Seigneur !» Ce que nous vivons correspond avec les promesses de Dieu. Ce que nous vivons là concrètement correspond avec ce qu'on attend de Dieu. Dieu protège son peuple, c'est normal, il est Dieu, il est tout-puissant. Mais voilà qu'il y a un deuxième temps. Et dans ce deuxième temps, Dieu ne semble pas agir comme on s'y attendrait. Sa présence, son action ne sont pas perceptibles. Alors, le serviteur ne comprend plus rien. Il se lève le matin et l'ennemi est là devant sa porte. Mais pourquoi Dieu n'agit pas ? Pourquoi Dieu ne protège pas ? Où est Dieu ? Que fait-il ? Alors bien sûr, ce cri pousse là, qu'il pousse ce cri, mais que ferons-nous ? Et parfois, ce cri, mais que ferons-nous, se transforme en, mais que fait Dieu ? Vous l'entendez, non, ce cri ? Vous le poussez peut-être tout au fond de vous ce matin ? Peut-être que vous vivez une situation où ce que vivez ne correspond pas avec ce que vous attendiez de Dieu. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que Dieu ne fasse rien ? Alors cette histoire d'exploit de Dieu qui agit, qui protège son peuple, se transforme en une histoire d'un serviteur complètement effrayé, complètement saisi par la terreur devant ses soldats, avec ce cri, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Bien sûr, il y a de quoi crier quand il voit tous ces soldats qui entourent, quand il est complètement démuni devant cette situation, quand il n'a pas, lui, une solution. Alors, mes amis, je ne sais pas s'il vous arrive en église, et peut-être en union d'église, devant les défis qui sont les nôtres, devant les défis de notre monde, et peut-être devant des situations un peu compliquées que nous vivons, de pousser nous aussi ce cri. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir de cette impasse? Comment je vais m'en sortir devant cet inconnu qui est devant moi? Comment je vais réagir devant peut-être une trahison, devant une épreuve de la vie que je n'attendais absolument pas, qui est complètement incohérente avec ce que j'attendais de Dieu? Osons le dire que ça peut arriver. Osons avouer que parfois nous vivons des situations qui sont contradictoires avec ce que j'ai osé appeler à un moment donné la vie par la foi, avec la foi, avec la confiance que j'avais en Dieu. Alors on va aller un peu plus loin. Et aller un peu plus loin, c'est se tourner vers Élisée, comme l'a fait ce serviteur. Et puis Élisée, il ne semble pas du tout affolé. Lui, il est paisible. Lui, il ne crie pas, mais comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Et puis on voit une attitude complètement différente devant la difficulté, devant l'épreuve. Et il y en a un là, Élisée, qui est le serviteur, qui regarde à lui-même, qui regarde à ses capacités, qui regarde à ses possibles. Il se retourne, ils sont que deux, il n'y a pas une armée pour les aider. Il regarde à ses forces, il regarde à ses solutions, comme je le fais si souvent devant les grands enjeux qui nous attendent. Je regarde à moi-même et je suis inquiète. Je suis inquiète parce que je me sens tellement petite, je me sens tellement démunie devant les enjeux qui sont devant nous. Et puis il y a l'autre qui regarde et qui voit un invisible, qui voit ce qui ne se voit pas. C'est complètement contradictoire, j'en conviens. Il regarde à une réalité spirituelle qui est au-delà du visible matériel. Et il ose dire une parole à son serviteur, n'aie pas peur. Il ose lui dire, ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est une phrase qui ne tient pas la route, parce que ce n'est pas vrai. Concrètement, ils sont deux et en face, ils sont nombreux. Donc ce n'est pas vrai que ceux qui sont contre eux soient moins nombreux. Vous voyez, ce n'est pas vrai ça. Son œil ne le voit pas. Il y a des paroles comme ça que nous pouvons entendre dans la Bible où on a envie de dire, mais non, c'est pas vrai. N'aie pas peur, je serai toujours avec toi. Dieu est le plus fort. Ton pied, tu ne heurteras pas une pierre, vous voyez? Et on se dit, c'est pas vrai. Je suis transpercée au-dedans de moi par une douleur que je suis en train de vivre. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Que devrais-je redouter? L'Éternel nous promet la victoire, sa puissance, elle est là. Et puis on se dit, mais ce que je vis, je ne vis pas dans la victoire. La parole du prophète vient défier le serviteur. Et parfois, la parole de Dieu nous met au défi. Là, j'ai mis même souvent. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la parole de Dieu vient nous mettre au défi? Cette parole de Dieu qui nous demande de compter sur lui, de ce Dieu qui agit, de tout ce qu'on vient de chanter, ce Dieu de délivrance, nous met au défi quand il y a un décalage avec ce que nous vivons. Quand ce que nous vivons ne semble pas correspondre à cela, alors le serviteur a du mal à croire cette parole qui n'est pas crédible, elle est décalée. Et peut-être qu'il nous arrive aussi de ne pas arriver à croire, à nous accrocher aux promesses de Dieu. Alors Élisée fait une prière toute simple. « Seigneur, ouvre ses yeux, je te prie. » pour qu'il puisse voir. Ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Pourquoi cette prière? Parce qu'il y a une réalité spirituelle, une présence et une action de Dieu qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Parce qu'il y a une réalité spirituelle qui dépasse ce que nous voyons, ce que nous vivons. C'est cela, vivre par la foi. Alors, je ne sais pas si comme moi, enfin, à un moment donné, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'entendais souvent des gens dire « Oh, ça y est, nous avons choisi de vivre par la foi ». Et en général, ça correspondait à quoi quand on disait « Je veux vivre par la foi » Voilà, ça correspondait qu'aux finances, ça veut dire que je ne veux pas avoir un salaire qui vient d'une église ou d'une mission, je vais vivre par la foi, c'est-à-dire que je vais attendre que chaque mois, chaque jour, que des personnes nous soutiennent. C'était souvent ça, hein. On l'entend moins ces temps-ci, non? Ou c'est moi qui... Enfin, on l'entend de moins en moins, mais à notre époque, cher Eric, on entendait souvent ça. Voilà quelqu'un qui veut vivre par la foi. Mais est-ce que vivre par la foi, c'est uniquement pour les finances? C'est quoi vivre par la foi? Vivre par la foi, c'est quoi? Dans Hébreux 11, il nous est clairement dit que la foi, c'est de voir l'invisible. La foi qui nous permet de rentrer dans cette réalité invisible à l'œil nu, qu'on ne peut voir que par la foi. Et cette histoire nous invite à cela. Cette histoire nous invite à chercher à ce que nos yeux de la foi soient toujours ouverts sur cette réalité spirituelle, sur cette vie spirituelle. Alors vivre par la foi, c'est vivre dans le royaume de Dieu. C'est vivre le royaume de Dieu sur cette terre. Rien de plus et rien de moins, non? C'est vivre déjà dans le royaume de Dieu, mais sur cette terre. C'est vivre déjà les réalités spirituelles sans attendre d'être dans l'au-delà, mais déjà ici et maintenant, parce que le royaume de Dieu, Jésus l'a dit, il est déjà là. Jésus a dit, le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Vivre le ciel sur cette terre, et nous pouvons le faire. Ça, c'est la bonne nouvelle que Jésus est venu nous annoncer. Cette bonne nouvelle qu'il est venu nous dire, qu'il est possible de vivre ici et maintenant déjà la réalité du royaume de Dieu. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, c'est possible. C'est possible que le règne de Dieu vienne ici. C'est possible que toi et moi, nous puissions déjà vivre dans le royaume de Dieu. C'est l'invitation qu'il nous lance. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est le défi qui est devant nous. Le défi devant nous est de savoir si une fois pour toutes, nous allons vraiment vivre les réalités spirituelles sur cette terre. Alors, bien sûr, il y a cette prière, le Seigneur, cette réponse. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur. Et celui-ci vit sur la montagne, vit que la montagne était pleine de chevaux, de chars de feu tout autour d'Élysée. Vivre par la foi, c'est voir cela. Vivre par la foi, c'est voir la présence de Dieu en tout temps. C'est voir où se trouve Dieu dans ma vie de tous les jours. C'est me lever le matin et voir Dieu. Aller au bureau et voir Dieu. Aller au magasin et voir Dieu. Aller au marché, au supermarché et voir Dieu. Aller à l'église et voir Dieu. Aller chez mes amis et voir Dieu. C'est voir la présence de Dieu, l'action de Dieu. Vivre la réalité spirituelle ici et maintenant. Alors mes amis, si à chaque fois que nous sommes dans une situation où les promesses de Dieu nous mettent au défi, où on ne voit pas ce qu'on aurait voulu voir avec nos yeux, si à chaque fois que les promesses de Dieu ne nous semblent pas crédibles, si on priait et qu'on nous disait « Éternel, ouvre mes yeux, Éternel, ouvre mes yeux pour que je voie », imaginez comment on vivrait nos journées. Vous imaginez un peu? Vous imaginez comment on pourrait vivre nos journées? Marcher dans notre vie, les yeux ouverts, les yeux de la foi ouverts. Je me demande si ce n'est pas ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est voir Dieu. Alors, je verrai Dieu, non pas au travers uniquement de ma raison, de mon intelligence, pas uniquement au travers de mes capacités, pas uniquement au niveau même de ma compréhension de l'Évangile, mais je le verrai avec les yeux spirituels de la foi. Je verrai la présence de Dieu, je verrai sa proximité, même si je suis toute seule. Je verrai sa protection, même si je suis en plein milieu dans une fournaise ardente ou même si je suis en plein milieu de plein de lions qui sont autour de moi. Non. C'est ça la foi. C'est être dans une fosse aux lions, mais avec la présence du Seigneur. C'est être dans une fournaise ardente, dans le feu, mais avec la présence de Dieu, sa protection et sa puissance. Alors oui, on peut prier, ouvre mes yeux pour que je voie. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, il y a Paul qui fait cette prière. Il l'a fait pour les Éphésiens. Et je vous lançais, si elle l'a fait, il faisait cette prière pour nous ici aujourd'hui. Et voilà cette prière que nous pouvons faire nôtre. Que le Seigneur ouvre vos yeux à sa lumière. Pour que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Pour que vous compreniez, vous comprendrez alors quelle est la richesse, la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Un texte, mais tellement riche, tellement condensé, c'est vraiment du concentré, hein, comme Paul sait faire. Alors je vous invite à le lire tranquillement chez vous et à comprendre chaque mot. Ce que je souligne juste dans ce texte, c'est que Paul il dit, je prie pour que vos yeux s'ouvrent, pour que vos yeux s'ouvrent, pour que vous voyez quoi? Pour que vous puissiez connaître cette espérance, pour que vous puissiez connaître cet héritage, héritage, la richesse, la splendeur de l'héritage que vous avez et pour que vous puissiez connaître la puissance extraordinaire. Il parle d'espérance. L'espérance non pas dans nos projets, dans nos possibles, voilà, oh, j'aimerais tellement. C'est pas cette espérance-là, hein. C'est pas, oh là là, j'aimerais tellement qu'il fasse beau, j'aimerais tellement que ça aille mieux, j'aimerais tellement trouver un meilleur travail, j'aimerais tellement... C'est pas ça d'espérance qu'il parle. L'espérance, elle est dans les promesses et l'action de Dieu. L'espérance, elle est en Dieu. L'espérance que Dieu ne change pas, que Dieu, ce qu'il dit qu'il est, il l'est vraiment. Ce Dieu Tout-Puissant, il est là. L'espérance que même si je suis en plein milieu du feu, que ce feu ne m'anéantira pas, parce que j'espère en Dieu. J'espère en Dieu. Mon espérance, elle est en Dieu, dans son action. L'espérance que les difficultés que je suis en train de vivre, cette situation que je suis en train de vivre, que je ne comprends pas, n'aura pas le dernier mot. Je ne suis pas liée à cela. Mon espérance, elle est en Dieu. Mon espérance, elle est en Dieu. Dieu, il est un Dieu qui agit. Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, même si je ne le vois pas de mes yeux. C'est ça, mon espérance. Vous savez, quand on voit de nos propres yeux, on n'a pas besoin d'espérer, puisqu'on le voit. Non ? L'espérance est liée à la foi. Si l'espérance et la foi vont ensemble, hein, c'est parce que je ne le vois pas que je suis remplie d'espérance. Alors ma foi me permet d'être remplie d'espérance que Dieu, il est fidèle. Il va agir, même si je ne le vois pas. L'espérance, elle se repose sur l'amour de Dieu. L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et puis, il est parlé de richesse dans ce texte. Paul prie pour que nos yeux s'ouvrent, pour qu'on comprenne la richesse, la splendeur de l'héritage qui nous est donné. Quel héritage ? Quel héritage nous est donné ? Alors, vous savez, moi je suis très touchée par cette question d'héritage parce que dans ma famille, il n'y a pas eu deux générations qui soient nées dans le même pays. Donc vous comprenez l'héritage des parents, des grands-parents, nous on ne connaît pas dans notre famille. Ma grand-mère, c'est une rescapée du génocide arménien, du génocide que les Arméniens ont subi. Donc elle était bébé hein, pendant le génocide et elle a grandi dans des orphelinats. Et je me souviens qu'elle nous disait très souvent cette parole. Elle disait, nous avons le plus bel des héritages en Christ, alors la pierre et la terre, ce n'est pas grave du tout. De toute façon, on va tout laisser sur cette terre. Mais notre héritage est en Christ. C'est quoi cet héritage? Le cadeau que Dieu nous donne. Jésus, en Jésus, nous avons une nouvelle identité. En Jésus, nous sommes choisis, aimés par lui. En Jésus, nous sommes adoptés pour que nous devenions les enfants du roi des rois. Amen. Nous sommes les filles et les fils du roi des rois. C'est ça notre héritage. En lui, nous sommes délivrés de toute oppression. Nous sommes délivrés de l'ennemi. Nous sommes pardonnés de nos fautes. Nous sommes délivrés de toute culpabilité. En Jésus, nous sommes remplis de sa grâce. Il nous a donné son esprit. Il nous a marqué à son sceau, voyez. Il nous a marqué, il nous a dit, toi, tu m'appartiens. Et comment il nous a marqué? Comment il nous a donné des arts de cet héritage? Eh bien, il nous a marqué par l'empreinte de son esprit qu'il nous a promis. C'est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voilà l'héritage que nous avons. Alors que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voie l'espérance, pour qu'on vive pleinement cet héritage et pour qu'on connaisse la grandeur de sa puissance. Alors, ça, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le verset que nous avons lu là-dedans, il nous est dit, cette puissance, que vous puissiez connaître la puissance qu'il dispose pour nous les croyants, une puissance extraordinaire. Et comme pour, je ne sais pas moi, Paul se disait peut-être qu'ils ne vont pas bien comprendre de quoi je suis en train de parler, de quel genre de puissance que je suis en train de parler. Alors il explique, il dit, vous savez, c'est cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est de cette puissance-là qu'il parle. Et là, Paul dit que Dieu dispose de cette puissance pour nous, pour nous. Alors que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse connaître l'espérance qu'il nous donne, qu'on puisse se saisir de l'héritage qu'il nous donne, pour qu'on puisse vivre pleinement, assuré de la puissance qu'il dispose pour nous les croyants. Regardez, il le dit autrement dans Romains. Que dirons-nous si Dieu est pour nous? Qui peut être contre nous? Alors à Marseille, quand je dis cette phrase, dans l'église de Saint-Antoine, il y a toujours un monsieur qui crie « Personne ». Vous savez le chant qu'on chante là? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Personne! Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son fils? On a l'impression que Dieu est en train de me dire, mais Gemma, j'ai donné mon propre fils pour toi. Alors tu crois que je ne vais pas te donner tout? Tu crois que je ne suis pas capable de déployer la grandeur de ma puissance pour toi? Alors mes amis, venez et qu'ensemble on puisse demander à Dieu d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse vivre par la foi, dans la foi, pour que nous puissions, comme le dit dans Romains 12, nous réjouir en espérance. Patienter dans la détresse, parce que Dieu est à l'œuvre, et persévérer dans notre prière, dans notre communion avec lui. Que dans tous les domaines de notre vie, quel que soit ce que nous vivons, nous puissions faire nôtre cette prière. Ouvre-moi les yeux. Pour que je te voie, pour que je te voie, Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur, je me dis que c'est quand même fou de te demander de te voir. Toi qui es splendeur, majesté, toi qui es puissance éternelle, toi qui es sainteté. Alors merci Seigneur, merci parce que Tu nous permets de te demander, de te dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te voie. Merci Seigneur, parce que tu veux te manifester à nous, tu veux qu'on te voie. Et on ne peut le faire que parce que tu le désires. Alors Seigneur, oui, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de nos cœurs, parce qu'on veut te voir chaque jour. Et on veut que nos cœurs soient remplis de reconnaissance, de louange, d'adoration, en tout temps, dans nos doutes, dans nos difficultés, comme dans les joies et dans les moments où ça va mieux, parce que nous savons que tu es là, parce que nous savons que tu nous aimes, parce que nous savons que tu es le Dieu qui agit dans notre quotidien. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen.